Tacite, les Annales, livre 13. Alarmé des fureurs d'Agrippine, qui voudrait voir monter Britannicus, le fils de Claude, sur le trône, Néron décide de faire périr son demi-frère. Néron, voyant Britannicus près d'achever sa 14e année, rappelait tour à tour à son esprit et les emportements de sa mère et le caractère du jeune homme que venait de révéler un indice léger, sans doute, mais qui avait vivement intéressé en sa faveur. Pendant les fêtes de Saturne, les deux frères jouaient avec des jeunes gens de leur âge, et dans un de ces jeux, on tirait au sort la royauté. Elle échut à Néron. Celui-ci, après avoir fait aux autres des commandements dont ils pouvaient s'acquitter sans rougir, ordonne à Britannicus de se lever, de s'avancer et de chanter quelque chose. Il comptait faire rire aux dépens d'un enfant étranger aux réunions les plus sobres et plus encore aux orgies de l'ivresse. Britannicus, sans se déconcerter, chanta des vers dont le sens se rappelait qu'il avait été précipité du rang suprême et du trône paternel. On s'attendrit, et l'émotion fut d'autant plus visible que la nuit et la licence avaient banni la feinte. Néron comprit cette censure et sa haine redoubla. Agrippine, par ses menaces, en hâta les effets. Nul crime dont on put accuser Britannicus, et Néron n'osait publiquement commander le meurtre d'un frère. Il résolut de frapper en secret et fit préparer du poison. L'agent qu'il choisit fut Julius Pollio, tribun d'une cohorte prétorienne, qui avait sous sa garde Locuste, condamné pour empoisonnement et fameuse par beaucoup de forfaits. Dès longtemps, on avait eu soin de ne placer auprès de Britannicus que des hommes pour qui rien ne fut sacré. Un premier breuvage lui fut donné par ses gouverneurs trop faibles, soit qu'on l'eût mitigé pour qu'il ne tuât pas sur le champ. Néron, qui ne pouvait souffrir cette lenteur dans le crime, menace le tribun, ordonne le supplice de l'empoisonneuse, se plaignant que, pour prévenir de vaines rumeurs et se ménager une apologie, il retardait sa sécurité. Ils lui promirent alors un venin qui tuerait aussi vite que le fer. Il fut distillé près de la chambre du prince et composé de poison d'une violence éprouvée. C'était l'usage que les fils des princes mangeassent assis avec les autres nobles de leur âge, sous les yeux de leurs parents, à une table séparée et plus frugale. Britannicus était à l'une de ces tables. Comme il ne mangeait ou ne buvait rien qui n'eût été goûté par un esclave de confiance, et qu'on ne voulait ni manquer à cette coutume, ni déceler le crime par deux morts à la fois, voici la ruse qu'on imagina. Un breuvage, encore innocent, égoutté par l'esclave, fut servi à Britannicus. Mais la liqueur était trop chaude, et il ne put la boire. Avec l'eau dont on la rafraîchit, on y versa le poison, qui circula si rapidement dans ses veines, qu'il lui ravit en même temps la parole et la vie. Tout se trouble autour de lui, les moins prudents s'enfuient, ceux dont la vue pénètre plus avant demeurent immobiles, les yeux attachés sur Néron. Le prince, toujours penché sur son lit et feignant de ne rien savoir, dit que c'était un événement ordinaire, causé par l'épilepsie dont Britannicus était attaqué depuis l'enfance, et que peu à peu, la vue et le sentiment lui reviendraient. Pour Agrippine, elle composait inutilement son visage. La frayeur et le trouble de son âme éclatèrent si visiblement qu'on la jugea aussi étrangère à ce crime que l'était Octavie, la sœur de Britannicus. Et en effet, elle voyait dans cette mort la chute de son dernier appui et l'exemple du parricide. Octavie aussi, dans un âge si jeune, avait appris à cacher sa douleur, sa tendresse, tous les mouvements de son âme. Ainsi, Après un moment de silence, la gaieté du festin recommença. La même nuit, vit périr Britannicus et allumer son bûcher. L'après des funérailles étaient faits d'avance. Elles furent simples. Toutefois, ses restes furent ensevelis au Champ de Mars. Il tombait une pluie si violente que le peuple vit un signe de la colère des dieux contre un forfait que bien des hommes ne laissaient pas d'excuser, en se rappelant l'histoire des haines fraternelles et en songeant qu'un trône ne se partage pas. Presque tous les écrivains de ce temps rapportent que, les derniers jours avant l'empoisonnement, Néron déshonora par de fréquents outrages l'enfance de Britannicus. Ainsi, quoique frappé à la table sacrée du festin, sous les yeux de son ennemi et si rapidement qu'il ne put même recevoir les embrassements d'une sœur, on ne trouve plus sa mort ni prématurée ni cruelle quand on voit l'impureté souiller avant le poison ce reste infortuné du sang des Claudius. Néron excusa par un édit la précipitation des obsèques. C'était, disait-il, la coutume de nos ancêtres de soustraire aux yeux les funérailles du jeune âge sans en prolonger l'amertume par une pompe et des éloges funèbres. Quant à lui, privé de l'appui d'un frère, il n'avait plus d'espérance que dans la République. Nouveau motif pour le Sénat et le peuple d'entourer de leur bienveillance un prince qui restait seul, d'une famille née pour le rang suprême. Ensuite, il combla de largesse les principaux de ses amis.